Bon, peut-être si vous voulez bien, si vous permettez avant de commencer donc le cours de cette année, j'indique rapidement les séminaires du mois d'octobre. Tout à l'heure, nous aurons un séminaire de Michel Brune du laboratoire Cassel-Bruxelles qui va nous parler de voir un photon sans le détruire, réalisation d'une mesure quantique idéale. La semaine prochaine, donc le 12 octobre, ce sera Philippe Bouillet du laboratoire Charles Fabry à l'Institut d'Optique qui nous parlera de condensation de Bose-Einstein en champ magnétique intense. Le 19 octobre, ce sera Pierre Pillet du laboratoire Aimé Cotton à Orsay qui va nous faire un peu une revue sur les molécules froides. C'est le titre exact, photoassociation moléculaire et molécules froides. Le 26 octobre, ce sera Pierre Agostini de Service de physique atomique et moléculaire de Saclay qui nous parlera de processus multiphotoniques dans les rayons dans le domaine X, UV et infrarouge et applications. Et donc le premier mardi de novembre, il n'y aura ni cours ni séminaire. Et les autres séminaires du mois de novembre, je pense pouvoir vous les annoncer dans quelques semaines. Donc aujourd'hui, c'est le premier cours de cette année. Et comme toujours, je consacre un peu la première séance à faire un résumé du cours de l'année précédente pour introduire un petit peu les notations essentielles, les idées essentielles qui ont été introduites l'an dernier et pour permettre aux gens qui prennent le cours en marche cette année de savoir un petit peu ce qui a été fait au cours des années précédentes. Donc je rappelle que il s'agit d'une série de cours sur la condensation de Bose-Einstein. De gaz atomique ultra froid. En fait, ceci, c'est le troisième cours de cette série. En 1997-98, j'ai envisagé le problème des bosons sans interaction, en fait un gaz parfait, qui est le cas le plus simple, mais qui permet déjà d'introduire un certain nombre d'idées. Et j'ai étudié successivement le cas de bosons dans une boîte. J'appelle boîte une enceinte cubique ou rectangulaire de dimension L, avec des parois réfléchissantes, et où donc les états propres sont des ondes planes. Et c'est un calcul bien connu de physique statistique, on montre que si la densité de bosons dans la boîte dépasse une certaine valeur critique, à ce moment-là, tous les bosons s'accumulent dans l'état fondamental de la boîte, et la condition de critique, c'est que le nombre de particules divisé par le volume de la boîte, c'est-à-dire la densité, que multiplie la longueur d'onde de De Broglie à la température critique au cube, égale 2,612, où la définition de la longueur d'onde de De Broglie, lambda de De Broglie, T, c'est racine carrée de 2 pi h bar 2 sur mkb, kb constante de Boltzmann, T la température. Alors, je cite un phénomène bien connu, je n'insiste pas beaucoup. Simplement, je rappelle un résultat très important, il ne faut pas faire cette erreur, c'est que si on prend les niveaux d'énergie de la boîte, et si on prend l'écart d'énergie delta epsilon entre le niveau le plus bas de la boîte, le niveau fondamental et le premier niveau excité, delta epsilon, c'est exactement 2 pi 2 h bar 2 sur ml2, où M est la masse de la particule, c'est en quelque sorte l'énergie de confinement, c'est l'énergie cinétique associée au confinement de la particule dans un volume L cube. Si on prend cette énergie, la température critique est beaucoup plus grande, l'énergie associée à la température critique est beaucoup plus grande que delta epsilon. On a delta epsilon sur KBTC, et de l'ordre proportionnel à, est proportionnel à 1 sur N puissance 2 tiers, c'est-à-dire très très petit devant 1. Par exemple, si je prends n égale 10 puissance 6, on a delta epsilon 10 000 fois plus petit que KBTC. Autrement dit, la condensation de Bose-Einstein, ce n'est pas un phénomène trivial. Ce n'est pas parce que la température est plus basse que l'énergie associée à la température est plus basse que l'énergie qui sépare l'état fondamental du premier niveau excité. C'est un phénomène qui apparaît bien avant ce seuil. Donc ça, c'est le seul point que je voulais rappeler. Puis je suis passé en 97-98 au cas d'un piège harmonique. Et nous avons vu de la même manière qu'il apparaît une condensation et qu'à ce moment-là, H bar oméga, où oméga est la fréquence du pied divisée par KBTC, est proportionnel à 1 sur n puissance 1 tiers, qui est là aussi très très petit devant 1. On a étudié également la fraction de particules condensées en fonction de la température, et puis un certain nombre de grandeurs thermodynamiques, comme l'énergie totale, la chaleur spécifique, la pression, toute une série de problèmes. On a également étudié les effets de taille finie. L'effet de taille finie, c'est, correspond au fait que le nombre de particules n'est pas infini, on ne passe pas à la limite thermodynamique. On a essayé d'évaluer les corrections liées au fait que n est fini. Et on a également étudié les problèmes de dimensionnalité inférieure à 3, les problèmes à 1 et 2 dimensions. Et puis pour terminer donc cette revue du cours 97-98, rappelons qu'on a donné un certain nombre de résultats expérimentaux, parmi lesquels des résultats montrant clairement qu'il n'est pas possible de négliger les interactions, et que les interactions jouent un rôle important même si le milieu est dilué. Et je donne juste ici un transparent que j'ai donné déjà l'an dernier, du groupe de physiciens du Holland, montrant sur ce cliché, il n'y a pas de baguette. Ah, pardon. Montrant sur ce guichet en ligne pointillée, ici, l'extension spatiale de la fonction d'onde de l'état fondamental du piège harmonique, racine de h bar sur m oméga. Si les particules sont toutes condensées dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique et s'il n'y a pas d'interaction, la largeur du nuage, la largeur du condensat doit être donnée par cette courbe. En fait, ce qu'on observe expérimentalement, c'est la courbe en tréplein ici, avec les points expérimentaux, et vous voyez que c'est beaucoup plus large. Ça veut dire que les interactions entre les particules font que le condensat gonfle, les particules se repoussent, et que la taille du condensat est beaucoup plus grande. Et la courbe ici est une courbe théorique, et les points sont expérimentaux, ce qui montre bien que les théories du champ moyen que je vais rappeler maintenant permettent bien de comprendre ce phénomène. Donc c'était précisément l'objet du cours de l'an dernier, le cours donc 98-99, qui était un petit peu les effets des interactions. Alors ça, il s'agit d'un problème extrêmement vaste, et je me suis surtout restreint l'an dernier à des théories de champ moyen. Alors, ici, dans les notes que je vous ai distribuées, d'abord il y a la photocopie d'un rapport d'enseignement que je fais tous les ans, donc qui explique un petit peu avec des mots ce qui a été fait. Et ce que je voudrais maintenant, c'est avec du transparent, rappeler un petit peu les points essentiels qu'on a introduits l'an dernier, parce que j'aurai besoin d'un certain nombre d'entre eux cette année. Et alors, évidemment, le premier point qu'il faut considérer, c'est quelle est la nature des interactions des particules. Quand le milieu est suffisamment dilué, les particules interagissent, les atomes interagissent par des collisions élastiques ou inélastiques à 2 ou 3 corps. Si la densité est suffisamment faible, c'est surtout les collisions à 2 corps qui sont importantes. Et le premier point à étudier, c'est les collisions élastiques. Alors, juste un transparent pour rappeler quelques notations. Quand on a 2 particules de même masse, M1 égale M2 égale M, on sait très bien que le problème de la collision peut être séparé. Il y a le mouvement du centre de masse, qui est le mouvement d'une particule libre de masse grand M égale petit, de petit m. Et dans le système du centre de masse, on a le mouvement d'une particule relative dont la masse est la masse réduite, qui est égale à m sur 2, et qui est soumise au potentiel d'interaction. Et cette particule relative a une coordonnée r, qui est la différence r1 moins r2, donc les coordonnées de 2 particules. Et toutes les collisions, le comportement de la fonction d'onde à grande distance, est donné par la formule bien connue, puissance IKZ plus f de θ et de φ, puissance IKR sur R, et f de θ et φ, c'est l'amplitude de diffusion qui contient, disons, toute la physique de la collision, et donc il faut calculer. Quand le potentiel est central, on a la symétrie de rotation, L2 et LZ sont des bonhommes quantiques, et si on étudie les fonctions d'onde ayant une énergie K2 sur 2M, un moment cinétique LM bien défini, elles ont cette forme-là, où YLM est l'harmonique sphérique avec cette condition limite, UKL de 0 égale 0, et l'équation de Schrödinger satisfaite par U, et celle-là, qui est bien connue, où on voit apparaître l'énergie, la particule, le potentiel centrifuge et le potentiel d'interaction. Et une telle équation montre qu'à grande distance, quand on peut négliger ce terme-là et ce terme-là, le comportement asymptotique de la fonction d'onde, c'est une sinusoïde avec un certain déphasage par rapport à la valeur Kr moins L pi sur 2, qui est le cas d'une particule libre. Autrement dit, l'effet de la collision sur l'onde partielle L, M, est entièrement défini par le déphasage delta L de K. Et si on connaît tous les déphasages delta L de K, on connaît l'amplitude de diffusion qui est donnée par cette expression bien connue en théorie des collisions. Alors, bon, ceci est bien connu. Ce qui est important, c'est qu'à très très basse énergie, des simplifications importantes apparaissent. En effet, les particules qui ont un moment cinétique orbital non nul passent l'une à côté de l'autre à des distances des paramètres d'impact qui sont de l'ordre de quelques longueurs d'onde de Debreuil. Et si la longueur d'onde de Debreuil, qui est inversement proportionnelle à la vitesse, est suffisamment grande, pour des L différentes de 0, les particules peuvent passer si loin l'une de l'autre qu'elles ne sentent plus leur interaction. Donc c'est uniquement dans l'onde S, L égale 0, où elles peuvent vraiment s'approcher très près, que la collision est importante, et on peut à ce moment-là se limiter à l'onde S pour étudier la collision, et remplacer l'amplitude de diffusion, qui était une somme sur L, par le terme L égale 0. Voilà l'amplitude de diffusion, et voilà la fonction d'onde radiale, UK0 de R, correspondant à L égale 0, qui est sinus KR, moins Lπ sur 2 qui est nul, puisque L égale 0, plus delta 0 de K. Donc delta 0 de K, c'est le déphasage de l'onde S. Alors, à quoi ça ressemble? J'ai dessiné ici UK0 de R en fonction de R en rouge. C'est une fonction donc, qui, très loin, se comporte comme une sinusoïde, et s'annule en 0, et très près, oscille si par exemple le potentiel est attractif, et à ce moment-là, il y a un certain vecteur d'onde local, et la fonction d'onde oscille de manière plus ou moins complexe, de manière qui dépend du potentiel. Mais cette région-là est petite, c'est la région où le potentiel agit, et j'ai dessiné également en bleu la fonction d'onde qu'on appelle prolongée, qui est la fonction qu'on obtiendrait en prolongeant pour toute valeur de R le comportement asymptotique de UK0 de R. C'est une sinusoïde, et elle coupe l'axe des R ici en un point P, dont l'abscisse correspond au 0 de la fonction VK0 de R, c'est-à-dire moins delta 0 de K sur K, en imposant à delta 0 de K d'être compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Donc delta 0 de K, l'abscisse du point P a une interprétation géométrique très claire, c'est moins delta 0 de K sur K. Alors, il y a une grandeur fondamentale qu'on introduit ensuite, qui est ce qu'on appelle la longueur de diffusion, petit a. Qui est la limite de delta 0 de K sur K, avec le signe moins, excusez-moi, quand K tend vers 0. Quand K tend vers 0, la solution de l'équation radiale asymptotique, c'est une droite, que j'ai dessiné en bleu ici. La fonction d'onde U00 de R, c'est cette fonction-là qui est une droite ici, et puis qui s'annule ici. Et la fonction prolongée coupe l'axe des abscisses en un point dont l'abscisse est la limite K tendant vers 0 de moins delta 0 de K sur K, c'est la longueur de diffusion. À ce moment-là, si on revient aux expressions précédentes, on voit facilement que l'amplitude de diffusion est égale à moins 1. L'état stationnaire de diffusion est de l'ordre est donné par e puissance ikz moins a et puissance ikr sur r, à l'ordre le plus bas. La section efficace totale est 8 pi à 2. Un petit mot sur le 8, c'est pas 4, c'est 8, parce qu'on a des particules identiques, il y a un phénomène d'interférence entre l'amplitude de diffusion et l'amplitude d'échange. Et enfin, j'ai présenté l'an dernier un calcul assez détaillé, où on essaye d'aller un peu plus loin que l'ordre le plus bas en k, et on montre que, de manière plus précise, on peut écrire FK, l'amplitude de diffusion, pour K tendant vers 0, comme moins A sur 1 plus IKA, moins 1,5 de RA K de A, où RA est un nombre qu'on appelle la portée effective. Effectivement, à l'ordre le plus bas en K, on retrouve bien FK égale moins A. Alors, le signe de A joue un rôle très important dans tous les problèmes de condensation de Bose-Einstein. Et là, il y a une petite difficulté sur laquelle je reviens là rapidement. Le signe de Anne n'a rien à voir avec le fait que le potentiel est attractif ou répulsif. Le signe de A permet de comprendre le signe de la correction introduite par le potentiel d'interaction sur les états du spectre d'énergie positive. Et on peut le comprendre très simplement de la manière suivante. Si je prends la particule et que je l'enferme dans une boîte sphérique de rayon grand R très grand, à ce moment-là, j'impose une condition aux limites à l'infini que la fonction d'onde soit annulée en R. On sait aussi que la fonction d'onde radiale doit s'annuler en zéro. Donc si la particule, s'il n'y a pas d'interaction, l'état fondamental, c'est la sinusoïde la plus simple, s'annulant en R et en zéro, c'est donc cette arche-là, on a une certaine énergie. Si maintenant on introduit des corrections liées aux interactions, et si la longueur d'onde de diffusion est positive, nous voyons que la courbe ici en violet, qui est la fonction U0 de R, s'annule toujours en R, s'annule en zéro, mais ici, sa fonction prolongée s'annule en un point A d'axis positif. De sorte qu'on voit que si on regarde la fonction d'onde aux grandes valeurs de R, son vecteur d'onde a diminué, parce qu'elle s'annule en R ici, elle s'annule dans ce point, donc elle a une longueur d'onde qui est plus courte qu'en l'absence de l'interaction, donc K a augmenté, et l'énergie cinétique, qui est l'énergie de la particule, quand on la calcule loin, a augmenté. Donc si la longueur d'onde est positive, les états du spectre d'énergie positive sont déplacés vers le haut. Tout se passe donc comme si on avait une répulsion. Si par contre la longueur de diffusion est négative, ça veut dire que la fonction prolongée s'annule dans ce point. C'est-à-dire qu'on a ici une sinusoïde dont la longueur d'onde est plus grande qu'en l'absence d'interaction. Donc K est plus petit, l'énergie cinétique est plus petite et la correction d'énergie négative. Tout se passe comme si le potentiel était attractif. Autrement dit, quel que soit le vrai potentiel d'interaction, pour les états du spectre d'énergie positive, c'est le signe de A qui détermine le sens de la correction, et l'interaction apparaît comme une interaction effective, soit répulsive, soit attractive, suivant le signe de A. C'est tout ce que je dirais sur ces points-là. Le deuxième point que j'ai étudié très en détail l'an dernier, c'est la question des pseudo-potentiels. En général, plutôt que de faire les calculs avec le vrai potentiel, qui est en général compliqué, on préfère remplacer le potentiel par un autre potentiel d'expression mathématique plus simple et conduisant à la même longueur de diffusion, puisque nous avons vu que c'est surtout la longueur de diffusion qui est importante. Alors, le potentiel qui est le plus utilisé dans ce type de travail, c'est le potentiel en fonction delta, G delta de R, et là, c'est une formule très importante pour que les conditions en premier ordre en potentiel soient les mêmes avec ce potentiel, avec le vrai potentiel, la constante de couplage G doit avoir une valeur bien définie, et ça c'est quelque chose d'important dont je me servirai tout le temps, c'est qu'on a G égale 4pi h bar 2 sur m que multiplie la longueur de diffusion petit a. À ce moment-là, on peut effectivement montrer que les corrections en énergie au spectre d'énergie positive sont les mêmes au premier ordre, en G, avec les deltas et avec le vrai potentiel. Par contre, il y a des difficultés considérables. Dès qu'on va au second ordre, on trouve des infinis. On trouve des difficultés considérables. Il y a un potentiel moins pathologique qu'on introduit alors, qu'on appelle le pseudo-potentiel, qui est de la forme G delta de R, D sur DR, R, c'est-à-dire quand il agit sur une fonction, il faut la multiplier par R, prendre la dérivée par rapport à R de R que multiplie la fonction, et puis multiplier ça par C delta de R, avec la même valeur de G. À ce moment-là, on peut montrer que ce potentiel est moins pathologique, qu'il a un développement de borne qui converge, et on montre que l'amplitude de diffusion est de la forme moins A sur 1 plus IKA. Si on compare cette expression à l'expression générale de l'amplitude de diffusion, on voit qu'on reproduit bien l'amplitude de diffusion à part que R égale 0. Autrement dit, le pseudo-potentiel que j'ai introduit ici se donne exactement la même amplitude de diffusion, mais avec R égale 0. Alors, il y a également une difficulté sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps l'an dernier, c'est que quand on regarde les éléments de matrice de V pseudo et de V delta, en fonction non perturbée, ces éléments de matrice sont les mêmes. D'où un problème très troublant, si les éléments de matrice sont les mêmes, le développement de perturbation doit être les mêmes. Deuxièmement, comment se fait-il qu'on trouve un résultat fini avec V pseudo est infini avec V delta, et j'ai démontré en détail que ceci était lié à des problèmes de convergence uniforme. Il fallait faire attention, quand on faisait une somme infinie, il fallait faire attention aux problèmes de limite et l'utilisation de V delta conduisait bien à des infinis, parce qu'il y avait des problèmes de convergence uniforme. Mais à part ces cas précis sur lesquels il faut être alerté, on peut faire les calculs avec V delta, mais en général, dans la littérature, on ne mentionne même pas ce problème. Donc, ensuite, ces rappels étant faits, je suis vraiment rentré dans le cœur du sujet et la prochaine étape, ça a été comment peut-on étudier les états d'énergie du système des particules et en particulier l'état fondamental dans lequel les particules vont se condenser. Comment peut-on étudier donc le condensat? Et le point important qui a été introduit ensuite, c'est l'équation de Gross-Pitalski. Alors, le problème ici, il s'agit de trouver la structure et la dynamique de l'état fondamental du système de boson piégé. Alors, en principe, le problème qu'il s'agit de résoudre, c'est de trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de l'Hamiltonien du système, qui est écrit ici, qui est la somme des énergies cinétiques des particules, de leur énergie d'interaction avec un potentiel extérieur qui les piège, et de leur énergie d'interaction qui dépend de leur distance, Ri moins RJ, avec une sommation sur I et sur J différente de I, le 1/2 ici, est lié au fait qu'il ne faut pas compter deux fois la même paire. Hein, la paire IJ, la paire J donnent la même énergie d'interaction. Alors évidemment, un tel calcul est complexe, en général, il n'est pas impossible, il faut le faire de manière approchée, et la première approximation qui a été présentée, c'est un calcul de type variationnel. Alors si on fait un calcul variationnel, on essaie d'approximer les fonctions par une famille de fonctions d'onde, on essaie de trouver celle qui minimise la valeur moyenne de l'énergie. Et la famille variationnelle qu'on prend pour étudier l'état fondamental, c'est un produit, évidemment symétrique, d'état où toutes les particules 1, 2, 3, 4, 5, 6, n sont toutes dans le même état phi. Donc le psi de l'état fondamental, c'est donné par ce quête-là. Et la question qu'on fait varier, le paramètre qu'on fait varier ici, c'est phi. Quel est le meilleur phi qui conduit à la meilleure approximation possible de l'état fondamental? Donc la famille variationnelle, c'est l'ensemble de tous ces états, avec tous les états phi à une particule possible. Il faut à ce moment-là essayer de minimiser psi h psi sur psi psi, où psi est donné par cette expression. Alors, j'ai présenté en détail le calcul. Évidemment, il faut d'abord calculer la valeur moyenne de psi h psi, qui est donnée par cette expression, l'énergie cinétique, l'énergie de piégeage et l'énergie d'interaction. Nn-1 sur 2, c'est le nombre de paires des particules 2 à 2. Et ensuite, on écrit que pour un delta phi donné, la valeur moyenne de h de phi ne varie pas au premier ordre, en gardant également psi psi constant, la norme de psi constant, puisqu'il faut minimiser psi h psi sur psi psi. Alors c'est un calcul classique de calcul des variations avec la méthode des multiplicateurs de Lagrange, et quand on fait cela, on trouve que le minimum de E de phi est obtenu quand phi de R satisfait à l'équation moins h bar 2 sur 2m laplacien phi, terme d'énergie cinétique, plus l'extérieur de R phi de R, terme de piégeage, plus n-1, somme de d3r' v de r-r' phi de r' en modulo carré, phi de R égale lambda phi de R, et lambda ici, c'est le multiplicateur de Lagrange qui apparaît dans le calcul variationnel. Alors, l'interprétation de cette équation est extrêmement claire. Elle exprime que chaque particule se déplace, on a une équation qui rappelle une équation de Schrödinger, et que chaque particule se déplace dans le potentiel extérieur, l'extérieur de R, et dans le champ moyen, dans le potentiel moyen, créé par les n-1 autres. En effet, ce terme-là, c'est bien les n-1 particules avec une densité de présence phi de r' carré, un potentiel d'interaction v de r-r' intégré sur r', c'est le potentiel moyen créé par les n-1 particules à l'emplacement r où se trouve la nième. Alors, si on prend le cas simple où on remplace v de r par g delta de r, l'expression se simplifie encore davantage, et on a ici un terme non linéaire, ng, avec la normalisation que phi de R est normée à 1, NG, on a N ici, NG, phi de R à modulo carré, phi de R égale lambda phi de R. Donc on a une équation qui, par certains côtés, rappelle les équations de l'optique non linéaire, où on a une équation de propagation du champ qui contient un terme linéaire, terme de propagation libre, et un terme cubique provenant des non-linéarités du milieu induites par les effets non linéaires. C'est ça qu'on appelle l'équation de Gross-Pitaïski. Également un point important, que représente le paramètre lambda, qui est le multiplicateur de Lagrange. Pour cela, on calcule la dérivée totale de E de phi par rapport à n, et la dérivée totale de E de phi par rapport à n, c'est la dérivée partielle, d phi sur dn, la dépendance explicite de E de phi en n, plus la dérivée de E par rapport à phi, que multiplie d phi sur dn. En effet, l'équation de Gross-Pitaïski dépend de n, et si on fait varier n, on fait varier l'équation de Gross-Pitaïski, on fait donc varier phi. Donc dans l'expression de la valeur moyenne de l'énergie, qu'on fait varier n, on fait varier les termes qui dépendent explicitement de n, et on fait varier également phi. Mais en fait, ce terme est nul parce que, par principe même du calcul variationnel, qu'on fait varier des phi, d sur des phi est nul, c'est le principe même du calcul variationnel, donc ce terme, c'est nul. Et quand on peut donc remplacer la dérivée totale égale à la dérivée partielle, et qu'on utilise l'équation de Gross-Pitaïski, on trouve que le paramètre de Lagrange, le multiplicateur de Lagrange, n'est rien d'autre que d phi sur dn, c'est-à-dire c'est le potentiel chimique, c'est l'énergie qu'il faut fournir quand on ajoute une particule au système. Donc le paramètre lambda qui apparaît dans l'équation de Gross-Pitaïski, c'est le potentiel chimique. Enfin, l'an dernier, j'ai également établi un certain nombre de relations générales, conséquences directes de l'équation de Gross-Pitaïski, que je rappelle ici, et c'est l'énergie cinétique moyenne plus l'énergie de pi avec l'énergie d'interaction, ça c'est trivial, mu, c'est 1 sur n et cinétique plus EPF plus 2 et interaction. À ce moment-là, attention, le 2, hein, c'est en effet l'énergie d'interaction varie comme N2, et quand on ajoute une particule, c'est la dérivée de N2 qu'il faut prendre, et c'est là vient le facteur 2N. Hein. C'est deux fois l'énergie d'interaction. Et enfin, un théorème du Viriel, si le potentiel de piégeage est harmonique, on a 2E cinétique moins 2E piège plus 3E interaction égale 0. Donc ça, c'est trois relations générales qui sont utiles, mais qui ne sont valables que quand l'équation de Gross-Pitaïski est utilisé. Ce n'est pas des relations vraies tout le temps. C'est vrai quand on utilise l'approximation de Gross-Pitaïski. Alors, la première application que j'ai faite de l'équation de Gross-Pitaïski, c'est qu'est-ce qui se passe dans une boîte lorsqu'on met des particules? Qu'est-ce qui se passe au voisinage des parois? S'il n'y avait pas d'interaction, je sais que la fonction d'onde doit s'annuler aux deux parois de la boîte, en 0 en n, et à ce moment-là, j'ai l'état fondamental, c'est un arc de sinus. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une densité de particules inhomogène. Ça, c'est peu physique, parce qu'on sent bien que quand il y aura des interactions entre particules, la densité aura tendance à s'homogénéiser, à s'uniformiser à l'intérieur de la boîte. Donc je m'attends à ce que la vraie densité, tenant compte des interactions, soit quelque chose de plat. Évidemment, la densité doit s'annuler au voisinage des parois, donc elle doit tendre vers 0 ici, au voisinage des parois. Je suppose ici, bien sûr, A positif. Alors, question, sur quelle distance la fonction d'onde, solution de Gross-Pitaïski, s'annule quand on s'approche de la paroi? Alors ça, c'est un résultat que, justement, on peut étudier en détail, de manière analytique. Alors, effectivement, quand on fait le calcul, j'ai dessiné ici la vraie fonction d'onde, la solution de l'équation de Gross-Pitaïski, et en pointillé ici, une densité uniforme, qui est n sur L3. Alors, on peut comprendre ce qui se passe en regardant qu'est-ce qu'il faut que je dépense en énergie lorsque je passe de cette distribution uniforme à une distribution qui s'annule. Alors, évidemment, si la distribution s'annule, il y a une variation de phi ici qui va entraîner un terme d'énergie cinétique. Et plus je m'annule rapidement, plus psi 0 est plus petit, plus l'énergie cinétique qu'il faut que je dépense est importante. De l'autre côté, on peut montrer que la différence entre l'énergie d'interaction associé à la courbe rouge et à la courbe en pointillé, c'est l'intégrale au carré de la différence entre les deux densités ici. Et là aussi, on trouve qu'il faut dépenser en énergie d'interaction. Alors, si je prends psi 0 très grand, je dépense peu d'énergie cinétique, mais l'intégrale de la différence au carré entre les deux courbes est très importante, je dépense beaucoup l'énergie d'interaction. Si au contraire je prends Xi0 tout petit, la variation d'énergie d'interaction est très faible, mais la variation d'énergie cinétique est très grande, et quand on porte les deux, la somme des deux, on passe par un minimum, quand Xi0 est donné par une expression qui est de la forme 1 sur racine de 8 pi n a n0. Et ça, c'est une grandeur importante. 1 sur racine de 8 pi a. Alors, j'avais introduit n0 l'an dernier dans le premier cours là-dessus, puis j'ai changé de notation parce que après n0, c'est le nombre d'occupations de l'état fondamental. Je l'appellerai plutôt rho. n0, c'est la densité rho. C'est 8 pi a rho. Donc, dans une boîte, il y a une longueur caractéristique, bien sûr, qui est la longueur d'onde, qui est la longueur de la boîte. Il y a une deuxième longueur caractéristique qui est Xi, 0, qu'on appelle, suivant l'état, longueur de relaxation, et que l'an dernier, sous les conseils de Franck Laloué, j'ai plutôt appelé la longueur de relaxation, parce que ça représente la distance au bout de laquelle le condensat s'ajuste pour répondre à une perturbation, par exemple une paroi ou un défaut, ainsi de suite. Donc c'est une grandeur qui joue un rôle important dans toute la condensation de Bose-Einstein. Il y a une autre manière de retrouver facilement cette expression, c'est la suivante, c'est de dire... quand j'ajoute une particule au condensat, l'énergie typique c'est mu. Et mu c'est zéro. Donc mu c'est zéro, rho g, c'est 4 pi h bar 2 sur m, a rho. Donc ça c'est l'énergie d'interaction typique d'une particule ajoutée au condensat. Pour évaluer cette énergie, je peux calculer la distance L pour laquelle l'énergie de confinement est égale à l'énergie de cette interaction, cette énergie. Donc j'écris quelle est la longueur L telle que l'énergie de confinement, H bar 2 sur 2ML2, soit égale à l'énergie, au potentiel chimique. Et quand on fait ça, vous voyez que les H bar 2 sur M s'en vont, et j'obtiens L égale 1 sur L2 égale 1 sur 8 pi à rho, c'est-à-dire que L est égal à Xi0. Donc écrire cette équation, ça donne tout de suite L égale Xi0. Donc la longueur de relaxation, c'est également la distance telle que l'énergie de confinement sur cette distance est égale au potentiel chimique. Bon, ensuite, après avoir étudié la boîte, évidemment, un point important, c'est condensat dans un piège harmonique. Un piège harmonique de fréquence oméga. Et là, on voit apparaître tout de suite une nouvelle longueur dans le problème, qui n'existe pas dans la boîte, qui est la largeur spatiale de l'état fondamental, qui est sigma égale racine carrée de h bar sur m oméga. Donc ça, c'est une nouvelle longueur qui fait son apparition, qui va être très importante dans toutes les discussions. Et alors, on peut déjà se faire une idée très qualitative, mais très, très physique de tout ce qui se passe, en raisonnant de la manière suivante. Mon condensat a une certaine taille, R. Pour quelle valeur de R, je vais minimiser la somme de l'énergie cinétique, de l'énergie de piégeage et de l'énergie d'interaction. Et ça va me donner la taille du condensat, comment elle varie sous l'effet des interactions. Alors si on introduit une grandeur sans dimension W, qui est R exprimée en unité de sigma, un calcul élémentaire donne que l'énergie cinétique varie comme 1 sur W2, l'énergie de piégeage pour un piège harmonique varie comme W2, et l'énergie d'interaction varie comme 1 sur W3, que multiplie qui, ou qui est un paramètre sans dimension, qu'on voit ici apparaître, qui est qui, et qui est égal à A, N sur sigma. A, la longueur de diffusion, N, le nombre de particules, sigma, la largeur spatiale de l'état fondamental. Toutes ces énergies étant en plus multipliées, bien sûr, par une énergie typique qui est N H bar oméga 0, l'énergie des N particules. Oui, qu'on voit apparaître tout de suite un paramètre très important, ce paramètre qui, très clairement, si qui est très très grand devant 1, les interactions sont fortes, le thème d'interaction devient important, si qui est très petit devant 1, on peut le négliger devant les deux autres. Donc c'est la valeur de qui relativement à 1 qui permet de déterminer si dans le piège harmonique, il est important ou non de tenir compte des interactions. Et évidemment, un condensat stable ne pourra exister que si EW égale E cinétique plus E piège plus E interaction passe par un minimum quand on fait croître W de 0 à l'infini. Et la valeur de W réalisant ce minimum me permettra de calculer la dimension caractéristique du condensat. Alors, ceci est donc une idée très simple. Et on peut tout de suite l'appliquer d'abord au cas d'une longueur de diffusion positive. Si la longueur d'onde est positive, à ce moment-là, on trouve que EW a toujours un minimum, c'est pas étonnant. L'énergie cinétique 1 sur W2 décroît quand W croît. L'énergie de piégeage et l'énergie d'interaction croît comme quand W croît. Donc on a le même type de considération que dans les livres de mécanique quantique élémentaire, on essaie d'évaluer l'énergie de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. La somme de ces énergies passe par un minimum. Et le minimum est réalisé quand W minimum est de l'ordre de chi puissance 1 cinquième quand chi est très grand devant 1. Parce que quand chi est tout petit devant 1, à ce moment-là, on retrouve l'oscillateur harmonique. Bien sûr, on oublie les interactions. On trouve donc que R, le rayon du condensat, varie comme sigma, qui multiplie chi à la puissance 1 cinquième, qui est beaucoup plus grand que sigma, et on comprend ainsi que le condensat gonfle sous l'effet du piège. Donc, sous l'effet des interactions. Si les interactions sont répulsives, les atomes se repoussent et le condensat gonfle par rapport à sigma. Alors ici, une petite remarque qui a son importance, c'est que ce problème est fascinant parce que c'est un problème où on peut relier finalement une dimension d'un objet macroscopique comme le condensat à une grandeur microscopique comme la longueur de diffusion. Et il est important de voir que les interactions peuvent se manifester de manière macroscopique, importante, même si le milieu est dilué. En effet, la distance moyenne entre atomes, elle, est donnée par R, n moins 1 tiers, puisque j'ai L cube égale R cube que multiplie N. Donc la distance moyenne entre atomes, c'est R n puissance moins 1 tiers. De sorte que le rapport entre la longueur de diffusion A et la distance moyenne entre atomes, c'est A sur R n puissance 1 tiers. Et comme R est plus grand que sigma quand R est positif, ceci est inférieur à A sur sigma n à la puissance 1 tiers. Et vous voyez, maintenant, je prétends que quand n est très grand devant 1, on peut avoir à la fois A sur L très très petit devant 1, c'est-à-dire que la distance moyenne entre atomes est beaucoup plus grande que la longueur de diffusion, qui caractérise en quelque sorte, c'est pas tout à fait exact, mais la portée du potentiel d'interaction, d'une part, et d'autre part, chi très grand devant 1, puisque nous avons vu que la chi grand devant 1, ça veut dire les interactions fortes. Par exemple, ce qui se manifeste par le condensat est plus gros qu'en absence d'interaction. Et ces deux, il est possible de satisfaire simultanément ces deux inégalités. Pour cela, prenons un exemple très concret. N égale 10 puissance 6, typiquement réalisé dans les condensats. A sur sigma, 10 moins 4. Si on prend quelques angstroms pour la longueur de diffusion et quelques dizaines de microns pour la taille de l'état fondamental, c'est bien réalisé. Donc A sur L, c'est inférieur à A sur sigma, 10 moins 4, que multiplie racine cubique de 10 puissance 6, des 10 puissance 2, 10 moins 4, 10 puissance 2, ça fait 10 moins 2. On trouve que A sur L est plus petit que 10 moins 2, c'est bien plus petit que 1, donc le milieu est dilué. Et AN sur sigma, A sur sigma, c'est 10 moins 4, qui multiplie 10 puissance 6, c'est 10 puissance 2. Le paramètre qui est égal à 100, il est plus grand que 1. Donc, on peut avoir un milieu dilué, mais les effets d'interaction très importants. Ça, c'est une idée, je crois, qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Quand la longueur de diffusion est négative, le problème est un peu plus délicat. En effet, maintenant, on a l'énergie cinétique qui est en 1 sur W2, l'énergie de piégeage qui est en W2, et l'énergie d'interaction qui est négative qui est en moins 1 sur W3. À ce moment-là, quand on ajoute ces trois termes, on a une courbe qui n'a pas forcément un minimum. Et si on prend l'approximation de remplacer les fonctions d'onde par des gaussiennes, on trouve ce réseau de courbes qui égale 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Et vous voyez que quand on fait croître chi à partir de 0, et qu'on augmente progressivement chi, on passe d'une courbe qui a un minimum à une courbe qui n'en a plus, ce qui veut dire que quand A est négatif, le condensat stable ne peut exister que si chi est inférieur à une certaine valeur critique, c'est-à-dire que si n, puisque chi c'est a n sur sigma, est inférieur à une certaine valeur critique, une valeur typique. Et ça veut dire que quand le condensat est négatif, les particules tendent à s'agréger, mais l'effet du piégeage les empêche de faire ça à condition qu'il n'y ait pas trop de particules. Donc un condensat stable ne peut exister quand a est négatif que pour un nombre suffisamment petit d'atomes dans le piège. Enfin, pour terminer cette partie, j'ai également étudié l'an dernier le cas qu'est-ce qui se passe lorsque A est positif, qui est le cas le plus intéressant, et quitte très grandement 1 quand les interactions sont fortes. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la limite de Thomas-Fermi. Qui permet de faire un certain nombre de calculs analytiques. Et donc je rappelle très brièvement ce cas, parce que j'aurai également à m'en servir cette année. À ce moment-là, si qui est très grand, le condensat est très gros, ces variations spatiales de la fonction d'onde de l'état fondamental, qui est une fonction réelle, sont très faibles, le terme d'énergie cinétique est négligeable devant les autres, et à ce moment-là, on peut le négliger dans l'équation de Gross-Pitaïsky. On peut négliger le terme en moins h bar 2 sur 2m laplacien. Et à ce moment-là, l'équation se simplifie considérablement parce que ça devient une équation algébrique. Il n'y a plus d'équation dérivée partielle. Et comme phi de R est réel dans l'état fondamental, on en déduit immédiatement que phi de R au carré, c'est-à-dire la densité de particules, c'est 1 sur Gn, mu moins 1,5 de m oméga 0 de R2. On voit ainsi que la forme du condensat est une parabole inversée. Et si vous revenez à la figure que j'ai donnée au début, cette courbe qui est là, la courbe en tréplein, que j'utilisais la courbe théorique, c'est une parabole inversée. Donc la phi carré, à la limite où qui est très grand, est une parabole inversée. Et effectivement, c'est bien ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, si on porte n de r, la densité de particules au point r, en fonction de r, on obtient une courbe qui part de mu sur g ici, pour r égale 0, et qui s'annule en r max égale racine carrée de 2 mu sur m oméga 0, 2. Alors attention ici, ce point anguleux ici, il faut faire des fois des théories un peu plus élaborées pour l'arrondir, pour tenir compte de la vraie solution. En ce point-là, la dérivée varie très vite, et on ne peut pas utiliser bien sûr l'approximation consistant à négliger le terme en moins h bar 2 sur 2m laplacienne phi, mais on peut, sur les conditions, on trouve que ces conditions arrondissent un petit peu la fonction d'onde ici. Alors, à partir de là, en prenant la normalisation de phi qui est égale à 1, en intégrant cette fonction d'onde, on peut calculer mu, et on trouve, le point important, c'est que mu est égal à h bar oméga 0 sur 2, que multiplie quelque chose qui est en chi à la puissance 2 cinquième, et comme ici on suppose chi grand devant 1, c'est beaucoup plus grand que h bar oméga 0. Donc, dans la limite de Thomas-Fermi, le potentiel chimique varie comme n à la puissance 2 cinquième, et est beaucoup plus grand que h bar oméga 0. De l'expression mu égale d de En sur N, on intègre cette équation par rapport à N, et on trouve que E de N, l'énergie totale du système, est égale à H bar oméga 0 sur 2, 15A sur sigma puissance 2 cinquièmes, N à la puissance 7 cinquièmes. Et si on divise E de N par N pour avoir l'énergie par particule, on trouve quelque chose qui est 5 septièmes de mu, qui est quelque chose qui varie comme N à la puissance 2 cinquièmes. Alors, ce petit calcul est important parce que les premières expériences qui ont été réalisées sur les condensats pour les étudier consistaient à prendre le condensat, le laisser s'établir et à l'instant T égale 0 de couper brusquement le piège. Sur les particules, le condensat s'élargit de manière balistique et on mesure à la fin l'énergie cinétique des particules une fois que cette expansion balistique s'est terminée. Alors, si on calcule l'énergie totale avant la coupure du piège, c'est l'énergie cinétique avant, plus l'énergie de piégeage avant, plus l'énergie d'interaction avant, à la limite de Thomas-Fermi, on peut négliger ce terme, l'énergie totale après, on fait passer brusquement cette quantité de valeur donnée à zéro, donc on a et interaction avant, donc l'énergie totale après, c'est l'énergie d'interaction avant. Si je redonne les trois équations générales que j'ai données tout à l'heure sur l'énergie totale, le potentiel chimique et le théorème du Viriel, si j'écris ces trois équations, et si je néglige les cinétiques dedans, qui est valable à la limite de Thomas-Fermi, j'ai deux équations qui permettent de calculer E piège et E interaction, et on trouve que E interaction, c'est 2 septièmes de mu n. On trouve donc que l'énergie libérée, c'est h bar oméga 0 sur 7, 15 a n sur sigma, donc c'est h bar oméga 0 que multiplie n à la puissance 2 cinquième, donc c'est beaucoup plus grand que h bar oméga 0. Donc quand les particules interagissent et qu'on coupe brusquement le piège, l'énergie libérée, qu'on peut mesurer expérimentalement, croît comme h bar oméga 0 n à la puissance 2 cinquième. S'il n'y avait pas d'interaction, qu'est-ce qui se passerait? Initialement, toutes les particules seraient dans l'état fondamental du piège, et d'après le théorème de l'équipartition de l'énergie, j'aurais dans l'énergie de l'état fondamental h bar oméga 0 sur 2, à 3 dimensions, 3 h bar oméga 0 sur 2, j'aurais la moitié énergie cinétique, la moitié énergie potentielle de piégeage. Donc j'aurais 3 h bar oméga 0 sur 4, 3 h bar oméga 0 sur 4 d'énergie cinétique et 3 h bar oméga 0 sur 4 d'énergie potentielle. Si on coupe brusquement le piège, on supprime l'énergie potentielle et l'énergie cinétique des particules serait à ce moment-là l'énergie libérée. Ce serait 3 k de h bar oméga 0. Donc l'énergie libérée, en l'absence d'interaction, serait 3 k de h bar oméga 0. Quand on compare les deux, ici, on s'aperçoit d'abord qu'en l'absence d'interaction, ça ne dépend pas de n, et qu'en présence d'interaction, ça dépend de n, et ça dépend de n comme n puissance de 5e, mais c'est beaucoup plus grand que h bar oméga 0. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait expérimentalement. C'est une courbe également que j'avais donnée l'an dernier. C'est le groupe de Ketterle, une des premières expériences donc, quantitatives faites là-dessus, où on voit l'énergie par particule en nano-Kelvin en fonction du nombre d'atomes condensés. Et la courbe en très plein ici, c'est une courbe n à la puissance 2 cinquième. Et on voit clairement que c'est une énergie qui n'est pas constante en fonction de n et qui est plus grande que h bar oméga 0. Bien. Alors, après ceci, le point suivant que j'avais abordé l'an dernier, c'était l'approximation de Bogo-Dubos, la transformation de Bogo-Dubos. L'équation précédente, bien sûr, ne s'applique qu'à l'état fondamental. Et elle n'est valable que si on peut négliger l'interaction des particules condensées avec les particules qui ne sont pas condensées, donc si on est dans une température très en dessous de la température critique. On peut se poser la question suivante, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut calculer les premières corrections, les premiers états excités, ce qu'on appelle les excitations élémentaires, et est-ce qu'on peut essayer d'évaluer de manière un peu plus précise les corrélations entre particules? En effet, dans l'approche de champ moyenne, les particules sont sans corrélation. La fonction dans l'état K, les opérateurs création et destruction d'une particule dans l'état R, qui dans une boîte, on se limite ici au cas d'une boîte, sont donnés par ces expressions. L'expression de l'Hamiltonien, H égale A croix K, AK qui est l'énergie, H bar 2 K2 sur 2M, qui est la somme du nombre de particules dans l'état K qui multiplie l'énergie de l'état K, plus l'interaction. Et en seconde quantification, l'énergie d'interaction est égale à cette expression, ça ressemble tout à fait à la valeur moyenne de l'énergie d'interaction dans le formalisme à une particule, dans le formalisme habituel de la mécanique quantique, mais à part que maintenant, les psi de R, psi de R', psi de R, psi de R', ici, sont remplacés par les opérateurs champs. Et quand on remplace les opérateurs champs par leur développement en A et à croix, comme ici, il y a quatre opérateurs champs, on obtient pour le Hamiltonien d'interaction une somme de termes où il y a quatre opérateurs, deux de création et deux d'annihilation. Un tel morceau ici décrit finalement un processus où deux particules K moins K, K2 plus K entrent en collision et donnent naissance à deux particules, elles disparaissent et elles donnent naissance à deux particules K1, K2. Il y a évidemment conservation de l'impulsion totale, la somme des K ici est égale à la somme des K ici. Alors ça c'est le problème sans approximation. Les approximations à la base du calcul de Bogo-Dubos, c'est les suivants. C'est-à-dire que si on n'est pas trop loin du zéro, si on est encore très en dessous de la température critique, le nombre de particules dans l'état condensé, dans l'état K égale 0, N0 égale A0 croix A0, sera beaucoup plus grand que le nombre de particules dans les états excités. Somme sur K différente de 0 de AK croix AK. D'où l'approximation consistant à dire que la Hamiltonienne d'interaction, je vais négliger tous les termes qui ne contiennent pas au moins deux fois un A0 ou un A0 croix. Parce que A0 et A0 croix sont de l'ordre de racine de N0, et racine de N0 est beaucoup plus grand que le reste. Donc on ne garde que les termes contenant soit 2, soit 4, soit 3. On peut montrer que ceux qui contiennent 3 n'existent pas à cause de la symétrie d'invariance par translation. Et on néglige les termes qui ne contiennent pas d'opérateur A0 ou A0 croix. De plus, deuxième approximation, on remplace A0 et A0 croix par racine de N0, qui, la plupart du temps, est égale à racine de N, puisque N0 est pratiquement égal à N. Dans certains cas, il faut faire attention quand même à la différence entre N0 et N. Je passe sur les détails des calculs qui ont été exposés en détail l'an dernier. Si on fait ça, dans le sous-espace des états tels que N0 est beaucoup plus grand que sigma k différent 0 de NK, comme on a supprimé tous les termes qui ne contiennent pas au moins 2 A0 A0 croix, les autres qui restent, ils ne contiennent au plus que 2 A AK ou AK croix avec K différent de 0. Et comme on a remplacé A0 A0 croix par des nombres, on obtient un hamiltonien quadratique en AK et AK croix. Et on sait très bien qu'un hamiltonien quadratique, on peut le diagonaliser par une transformation unitaire. Et en introduisant une combinaison linéaire des A et A croix qui est ici, on peut diagonaliser l'opérateur H effectif et le mettre sous la forme E0 plus sigma k de H bar oméga de k BK croix BK, où BK et BK croix sont donnés par ces expressions. Et ceci donc a une interprétation très simple. On a un hamiltonien avec un état fondamental d'énergie 0 et puis des états excités qui sont des excitations élémentaires qui sont créées ou détruites par l'opérateur BK. Et E0 est l'énergie d'état fondamental, qui est donnée ici. H bar oméga de K est donnée ici, c'est racine carrée de H bar K2 sur 2N, qui multiplie H bar 2 K2 sur 2N plus 2 ρg. Et BK et BK croix sont donnés par ces expressions, où U et B sont donnés par cosinus hyperbolique θ et sinus hyperbolique θ, et cette expression ici pour l'angle tangente hyperbolique de θ. Donc on a résolu en principe le problème, et il y a beaucoup de physique là-dedans, que je vais maintenant rapidement passer en revue. Le premier point important, c'est la relation de dispersion des particules des excitations élémentaires. H bar de oméga de K égale racine carrée de H bar de K2 sur 2N, racine H bar de K2 sur 2N plus 2 ρg. Et vous voyez ici apparaître dans le deuxième facteur l'énergie cinétique, H bar de K2 sur 2N, et 2 ρg, qui est le potentiel chimique. C'est deux fois le potentiel chimique. Ça c'est G, ça c'est ρ. Et tout à l'heure, je disais que potentiel chimique égale énergie cinétique, ça donnait une longueur L qui fait xi0, la longueur de relaxation. Et à L est associé un vecteur d'onde qui est 1 sur xi0. Donc vous voyez que suivant que K est plus grand que K0 ou plus petit que K0 ou K0, égale 1 sur xi0. Suivant que K est plus petit ou plus grand que K0, si K est plus grand que K0, ce terme est très important dans celui-là. Si K est plus petit que K0, ce terme est très grand dans celui-là. Donc il y a deux limites. K plus petit que K0, je néglige ce terme. À ce moment-là, j'ai racine de H bar de K2 sur 2M qui multiplie 2 ρg. La racine carrée de K2, c'est K. Et la relation de dispersion, c'est une relation linéaire, oméga égale CK, où C est donné par cette formule. Ça veut dire donc que pour les excitations élémentaires K de plus petit que K0, c'est-à-dire de grande longueur d'onde, j'ai une excitation de type phonon avec une vitesse donnée par la vitesse du son C égale racine de ρg sur M. Si par contre K est beaucoup plus grand que K0, ce terme est négligeable devant celui-là et la racine carrée de H bar de K2 sur 2M est égale à, au carré est égale à H bar de K2 sur 2M. Donc on fait un développement limité ici, on trouve oméga de K égale H bar K2 sur 2M plus ρg sur H bar. De sorte que la loi de dispersion est dessinée ici. En bleu, j'ai dessiné la parabole oméga de K égale H bar K2 sur 2M, c'est la particule libre. En vert, j'ai dessiné la même parabole translatée de ρg sur H bar. C'est la particule libre plus une coefficient ρg sur H bar. Et en rond, c'est la relation de dispersion donnée par la théorie de Bogoliubov qui part avec une pente linéaire ici et qui rejoint la courbe verte à très grande valeur de K. Nous verrons dans le cours de cette année que des expériences récentes utilisant de la diffusion Bragg stimulés ont permis de mettre, de tester expérimentalement et de retrouver expérimentalement cette courbe, non seulement dans cette région-là, également dans cette région-là. Donc, en d'autres termes, pour des excitations de grande longueur d'onde, on a un comportement collectif de type phonon. Pour des excitations de courte longueur d'onde, on retrouve la particule libre corrigée du potentiel chimique au G sur H bar. Un autre point important que j'ai étudié l'an dernier, c'était ce qu'on appelle la déplétion quantique de l'état fondamental. L'état fondamental psi 0 est tel que le nouvel état fondamental psi 0 est tel que c'est le vide pour les états bk, c'est-à-dire satisfait à bk psi 0 égale 0, quel que soit k différent de 0. Et par ailleurs, je sais que n moins n 0, le nombre de particules qui ne sont pas condensées, c'est la somme sur k différent de 0 de psi 0 à k croix à k, dans la moyenne dans cet état-là. Je peux réexprimer ak et ak croix en fonction de bk et bk croix et utiliser cette formule et la formule adjointe. Et à ce moment-là, c'est un petit calcul très, très, très joli, analytique, qu'on peut mener jusqu'au bout, et on peut calculer n moins n 0, et on trouve un résultat important que n moins n 0 sur n, c'est-à-dire le nombre de particules qui ne sont pas dans l'état fondamental, divisé par 1, est égal à 8 sur racine de 3 racine de pi, rho à cube puissance 1,5, et on s'aperçoit que le paramètre infiniment petit qui caractérise l'approche de Bobo-Dubov, c'est rho à cube, c'est le nombre de particules dans un volume à cube, et ce nombre est petit si rho à cube est plus petit que 1, c'est-à-dire si A, la longueur de diffusion, est beaucoup plus petite que la distance entre particules, la distance moyenne entre particules. C'est ce que j'appelais tout à l'heure un milieu dilué. Un milieu dilué, c'est un milieu tel que rho à cube est petit devant 1. J'ai également présenté l'an dernier le calcul de rho 2, la densité de corps, c'est-à-dire la probabilité de trouver une particule au point R et une particule au point R prime. C'est pas égal à au produit des densités trouvées une particule en R et une particule en R prime. Il y a une correction 1 moins qui de S. Et la transformée Fourier de qui de S est donnée par cette expression. C'est une fonction qui a une largeur typique de l'ordre de K0. Donc on trouve pour qui de S quelque chose qui s'annule, moins qui de S, quelque chose qui s'annule en 0. Les deux particules ne peuvent pas venir l'une à côté de l'autre à cause de l'interaction répulsive qui existe entre elles. Et on a une courbe qui a une largeur de l'ordre de la longueur de relaxation psi 0. Je suis enfin revenu l'an dernier pour terminer sur le problème de l'équation de Gross-Pitewski dépendant du temps. Si vous voulez, ici, je m'étais surtout consacré au problème de structure. Quelle est la structure de l'état fondamental? En regardant l'équation de Gross-Pitewski dépendant du temps, on peut étudier la dynamique. Alors, c'est une étude qui est importante pour toutes les expériences où l'on fait varier brusquement, ou pas brusquement, le potentiel, ou le potentiel de piégeage, soit le module, soit le couple. À ce moment-là, évidemment, on a un problème dépendant du temps, et il faut reprendre la théorie pour rendre compte de ces théorèmes, de ces problèmes dépendants du temps. Là encore, j'ai présenté l'an dernier une méthode variationnelle. L'idée est la suivante, on montre d'abord que l'équation de Schrödinger, la vraie équation de Schrödinger, qui tient compte des interactions de toutes les particules entre elles et qui ne prend pas une fonction d'onde produit, la vraie équation de Schrödinger, on peut la déduire d'un principe variationnel. On peut l'obtenir à partir d'un principe de moindre action, à partir d'une certaine action et d'un certain Lagrangien. J'ai rappelé cette action et ce Lagrangien. Et ensuite, au lieu de chercher le minimum de l'action dans tout l'espace de Fock, on l'a cherché dans un sous-espace de l'espace de Fock, dans le sous-espace correspondant à des fonctions d'onde produits, phi de R1 de T, phi de R2 de T, phi de Rn de T, la même fonction d'onde dépendant du temps, mais la même pour toutes les particules. Et en appliquant le théorème, le principe de moindre action dans ce sous-espace, on trouve que la meilleure fonction d'onde dépendant du temps à une particule satisfait cette équation, qui rappelle tout à fait l'équation de Schrödinger, l'équation de Gross-Pitewski indépendante du temps, mais à part que maintenant, le potentiel extérieur dépend du temps. Et ici, on n'a pas mu phi, mais il y a le bar des surdétés de phi de R et de T. Et l'interprétation est la même que tout à l'heure. On a une particule qui se déplace dans le potentiel extérieur dépendant du temps, et dans le potentiel moyen créé par les n moins une autres, compte tenu du fait de leur mouvement. On appelle quelquefois cette méthode Hartree-Fock dépendant du temps. Alors, j'ai ensuite c'est un certain nombre de variations sur cette équation. D'abord, le cas où les modifications de V sont toutes petites, où V de R et de T, c'est un potentiel statique plus une petite perturbation. À ce moment-là, l'équation non linéaire, l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps, peut être linéarisée autour de la solution correspondante delta V égale 0. Et on montre à ce moment-là que delta phi et delta phi étoile, il faut considérer à la fois delta phi et delta phi étoile, sont donnés par un système de deux équations, avec un terme source ici, et puis un opérateur LGP qui est donné par un opérateur de 2, dont les éléments de matrice ici dépendent de R, et on est donc ramené à un problème plus simple. Et si on bouge le potentiel et puis qu'on arrête de le bouger, le système est mis en mouvement, en vibration, et à ce moment-là, ces vibrations propres sont obtenues comme une solution d'une équation de valeur propre de cet opérateur. Et on peut calculer les mouvements du système pour des petits écarts par rapport à l'équilibre. J'ai également présenté une autre approche qui est très féconde, qui est une réécriture de l'équation de Gross-Pitaïsky sous une forme équivalente. Alors là, j'ai changé la normalisation, on est normé phi à 1, on le norme à n, où n est la densité de particules. À ce moment-là, on peut séparer le module et la phase de phi. Le module, c'est la racine carrée de la densité au point R, et la phase, c'est une certaine fonction S de R et de T. À partir de S, on peut montrer qu'on peut introduire un champ de vitesse qui est H bar sur M gradient F de R et de T. Et l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps que j'ai écrite tout à l'heure peut être remplacée par deux équations pour ρ et pour V. dρ sur dt et dv sur dt. Et là, il n'y a aucune approximation. C'est strictement équivalent à l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps. L'équation pour ρ, c'est à la forme d'une équation de continuité. L'équation pour V, la voilà. Ces termes-là sont un peu familiers pour les gens qui font de l'hydrodynamique. Ce terme est un peu plus mystérieux. Il contient H bar. On l'appelle le terme de pression quantique, et il fait intervenir des dérivées spatiales, non pas de phi, mais de ρ, la densité. Alors, on a montré à ce moment-là, l'année dernière, que l'équivalent de l'approximation de Thomas Fermi, qui consiste à négliger le terme de dérivée seconde de la fonction d'onde dans l'état fondamental. Je vous rappelle que dans l'état fondamental, la fonction d'onde est réelle. Quand il n'y a pas de vortex, la fonction d'onde est réelle, donc on néglige ce terme. Quand on a une phase qui varie au cours du temps, on ne peut plus le faire. Et par contre, on peut continuer à négliger les dérivées spatiales de la densité, la racine de ρ. Il est légitime à ce moment-là de négliger le terme de pression quantique. Donc l'équivalent de l'approximation de Thomas Fermi pour un problème de dépendance du temps, c'est négliger le terme de pression quantique. À ce moment-là, l'équation de V a cette forme-là, et en regroupant ce terme et ce terme, on fait apparaître la dérivée totale de V, et on voit apparaître tout simplement l'équation de la dynamique d'une particule de masse m soumise à la force de piégeage et à la force moins gradient de Roger, moins gradient du potentiel chimique dû aux interactions avec les autres. Donc à ce moment-là, l'équivalent de l'approximation de Thomas Fermi pour le problème dépendant du temps conduit à une équation qui rappelle tout à fait une équation d'hydrodynamique. Il y a une autre approche que j'ai également rappelée à haute densité, qui a été en particulier développée par Ivan Kasta et Ralph Doom, et également par les chercheurs russes du groupe de Yuri Kagan. C'est la suivante, c'est que quand le potentiel extérieur R et de T est harmonique et ne dépend du temps que par l'intermédiaire des fréquences de vibration oméga i de t, c'est-à-dire si le potentiel V de R de t est une fonction du temps uniquement par les oméga i de t au carré, à ce moment-là, et si on suppose que pour t négatif, on a un potentiel statique avec oméga i de t égale oméga i 0, à ce moment-là, les équations de l'hydrodynamique ont une solution très simple, qui est une simple dilatation, Ri de t égale Ri de 0, Bi de t, ou Bi de t est le facteur de dilatation. Donc c'est un simple changement d'échelle. Et le point important, c'est qu'au lieu d'avoir des équations dérivées partielles, on a des équations différentielles non linéaires pour les Bi de t, qui sont les suivantes, B seconde i de t plus oméga i carré Bi de t, moins oméga 0 i carré sur Bx de t, By de t, Bz de t, Bi de t égale 0. Donc ça, c'est des équations qui sont plus simples à manier que l'équation d'hydrodynamique que j'ai donnée tout à l'heure. Et l'an dernier, j'ai présenté des solutions de ces équations pour différents types de problèmes. des problèmes d'expansion balistique du cordon chat qu'on obtient quand on coupe brusquement le piège à un instant t égale 0, des modes propres de vibration quand on change le potentiel un petit peu et puis qu'on revient à la valeur initiale et qu'on regarde comment le système évolue, soit dans le régime linéaire, soit dans le régime non linéaire. Voilà un petit peu une vision d'ensemble donc, du cours de l'an dernier. Je rappelle que je me suis beaucoup appliqué l'an dernier à donner, je me suis beaucoup inspiré l'an dernier sur un article de revue écrit par le groupe de Trento, d'Alfovo, Giorgini, Pitelski, Stringari, qui n'était qu'en préprint l'an dernier, qui est maintenant publié. Je donne la référence, Review of Modern Physics, donc de 99. C'est un article où les théories du champ moyen sont exposées avec beaucoup de détails, sur lequel je me suis beaucoup appuyé dans le cours de l'an dernier. Je rappelle également que les cours du Collège de France, grâce au dévouement de Franck Lalloué et de Zahir Dissi, sont disponibles sur le site web dont j'ai donné l'adresse ici. Et je voudrais maintenant, en 5 minutes, peut-être vérifier cette adresse-là, pour ceux qui ne l'ont pas, donner simplement le programme, très brièvement le programme de mon cours de cette année. Si vous voulez, il y a eu un développement important à la fin des années 96, il y a à peu près 3 ans, qui a fait la couverture de Science en janvier 97. Une expérience faite par le groupe de Wolfgang Peterle à MIT, où on a observé, on a refait avec des condensats de von Einstein, une expérience qui rappelle beaucoup l'interférence entre deux lasers indépendants. Le principe de l'expérience est le suivant. Je reviendrai dessus, donc c'est pour ça que je n'ai pas donné, c'est transparent dans mes notes, je reviendrai en détail sur cette expérience. Je donne simplement son principe. On part d'un condensat qui est allongé dans cette direction. C'est facile parce que les pièges magnétiques dans lesquels sont piégés les condensats sont en général très anisotropes. Et avec un faisceau laser désaccordé vers le bleu, on crée un potentiel répulsif qui a la forme d'une lame et on coupe le condensat comme si on coupait avec un couteau. Donc on coupe le condensat en deux morceaux, un morceau de gauche et un morceau de droite. Et on peut varier la distance entre les condensats en variant l'intensité du faisceau laser, c'est-à-dire en variant l'épaisseur du couteau. Et puis, on laisse tomber les condensats sur 8 mm. Alors, vous voyez que l'expansion balistique va être beaucoup plus grande dans cette direction, parce que l'interaction est beaucoup plus forte dans cette direction, le gradient du potentiel chimique est beaucoup plus grand dans cette direction. Il va donc y avoir une expansion anisotrope qui va modifier l'anisotropie de ces deux parties. Donc les deux condensats tombent, s'agrandissent, plus dans cette direction, dans celle-là, et ils ne se recouvraient pas ici, au bout d'un moment ils se recouvrent, et on voit apparaître des fronts d'interférence. Pour les voir, comme elles sont très allongées dans cette direction, avec un faisceau de pompage optique, on sélectionne une petite tranche d'épaisseur très faible dans cette direction, et avec un faisceau laser sonde, on en fait l'image de cette figure d'interférence, et ce que j'ai montré tout à l'heure, ce sont les fronts d'interférence observées. Donc on voit apparaître des fronts d'interférence entre deux condensats qui se sont dilatés et qui se recouvrent. Je donne ici des cours plus précises. On voit ici des fronts d'interférence expérimentales. Et la comparaison de ces résultats expérimentaux avec les prévisions effectuées à partir d'une solution numérique ou quasi-analytique de l'équation de Gross-Pitaïski montre ici que le phénomène est bien compris. En haut, il y a la partie les franges expérimentales, et en bas, il y a les prédictions théoriques à partir de l'équation de Gross-Pitaïski pour différentes configurations expérimentales. On voit donc, on comprend bien le phénomène. Donc, on voit bien qu'on peut faire interférer l'un avec l'autre deux condensats différents, et ceci pose le problème, disons, le problème des propriétés de cohérence des condensats, et c'est un peu le sujet du cours de cette année. J'ai mis ici uniquement un certain nombre de thèmes que je vais aborder. Donc le thème général, c'est les propriétés de cohérence des condensats de Bose-Einstein. Le mot cohérence est un mot qui est utilisé un petit peu de manière trop systématique, il faut le préciser, parce qu'il a plusieurs sens différents. Regardons d'abord ce qui se passe pour un condensat donné. Un condensat donné, c'est une fonction d'onde. Une fonction d'onde, on sait très bien que La phase totale d'une fonction d'onde, la phase globale d'une fonction d'onde n'est pas physique, puisque deux fonctions d'onde qui diffèrent par un facteur de phase globale ont le même contenu physique. Donc c'est pas ça. La phase d'un condensat, ça n'a pas de sens comme ça en soi-même. Par contre, la différence de phase entre deux points d'un condensat, on peut se poser la question. Est-ce qu'il existe une différence de phase bien définie entre deux points d'un condensat? Et si je me déplace dans le condensat, à partir de quelle distance cette différence de phase ne sera plus prédictible de manière certaine? On voit donc apparaître la notion de longueur de cohérence. Quelle est la longueur de cohérence d'un condensat? Est-ce que c'est la dimension du condensat? Est-ce que c'est plus petit? Deuxième problème, si on prend deux condensats différents, et ça c'est l'expérience que j'ai expliqué tout à l'heure, est-ce qu'il existe une phase relative entre le condensat de gauche et le condensat de droite? Qu'est-ce qui détermine cette phase relative? Est-ce qu'elle existe avant l'expérience, ou est-ce que c'est l'expérience elle-même qui l'a fait apparaître? Ça c'est une question extrêmement importante sur laquelle des progrès ont été faits et des résultats intéressants ont été obtenus, je voudrais discuter en détail. Il n'y a pas seulement la longueur de cohérence qui est importante, il y a également les corrélations d'intensité, les fluctuations du nombre de particules. Donc il y a les fonctions de corrélation d'ordre supérieur, ce que les gens appellent également les cohérences d'ordre supérieur. On sait très bien, par exemple, qu'en optique, que c'est pas seulement le contraste des franges d'interférence qui est intéressant, qui est lié aux fonctions de corrélation d'ordre 1, on peut également faire des corrélations d'intensité, comme dans l'expérience de Andre Brown et Twist, étudier également les fluctuations du groupement des particules. Donc, est-ce qu'on peut, les mêmes phénomènes se produisent pour des particules condensées? Le problème expérimental des interférences en condensat également, quand on a un condensat, un objet qui a une certaine, un certain nombre de fonctions de corrélation, si au moyen d'un coupleur, soit de radiofréquence, soit optique, on sort des atomes de ce condensat et on obtient un faisceau d'atomes, est-ce que ce faisceau d'atomes est cohérent? Est-ce qu'on peut le caractériser par des fonctions de corrélation d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3? Et est-ce qu'on peut considérer que le faisceau d'atomes qu'on obtient à partir d'un condensat peut être considéré comme un laser? Donc le problème des lasers atomes. Donc ce sont tous ces problèmes que je voudrais aborder donc à partir de la semaine prochaine, en commençant peut-être par une introduction générale sur les fonctions de corrélation en optique et sur les condensats de Bose-Einstein. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je commencerai donc ce programme la semaine prochaine.